Bet you were thinking, now why don't he write?
Hello, Two Socks.
Je m'appelle Morgane Olivier, je suis maître de conférence à l'université de Rennes. Mes sujets de recherche ont à faire plutôt avec un domaine qu'on appelle la paléogénomique. Je travaille depuis 8 ans sur le sujet de la domestication du chien, alors en m'intéressant principalement à quels sont les effets de la domestication sur les génomes des espèces, donc comment est-ce qu'on passe d'un animal sauvage à un animal domestique, et pour ça on s'intéresse au génome ancien. Pourquoi ? Parce que maintenant le chien, ben, c'est 300 ans de sélection artificielle drastique. Et du coup, pour revenir vraiment au premier instant de la domestication et regarder vraiment les effets de la domestication et non pas de les sélections artificielles, on est obligé de faire appel aux fossiles, en fait. J'ai des échantillons qui vont de moins 14 000 à moins 4 000 ans. Donc c'est du paléolithique, donc les hommes sont encore chasseurs-cueilleurs jusqu'à l'âge de bronze, d'accord ? Et on en a plusieurs centaines, alors tous ne donnent pas de l'ADN, en fait. Donc il y a des échantillons trop dégradés pour être analysés. Maintenant, on a travaillé sur une centaine d'échantillons. Pendant longtemps, il y avait plusieurs hypothèses quant à l'origine du chien. On pensait que c'est soit le loup gris, soit le coyote, le chacal. Donc il y a eu pas mal de débats autour de cette question. Et en fait, en 2007, quand on a publié le génome du chien, il y a eu un arbre phylogénétique qui a été fait. Grâce au génome mitochondrial entier, on a reconstitué un arbre en incluant le chien, mais le loup, le coyote, le chacal, les renards, etc. Et il se trouve que le loup gris est le plus proche parent du chien, en fait. Le coyote et le chacal sont un peu plus éloignés, donc on en déduit qu'il y a une seule origine au chien et qui dérive en fait de population ancestrale de loup gris.
Still no sign of Captain Cargill's command. Though well supplied, I've decided to ration my goods as if I were part of a post instead of the whole affair. There's a wolf who seems intent on the goings on here. He does not seem inclined to be a nuisance, however, and aside from Cisco has been my only company. He has appeared each afternoon for the past 2 days. He has 2 milky white paws. If he comes calling tomorrow, I will name him Two Socks.
La domestication, elle a eu lieu il y a au moins 20 000 ans. C'est un processus graduel, donc peut-être que ça a commencé il y a 40 000 ans et puis que ça s'est fait graduellement. Alors, on ne connaît pas précisément quelle population de loups était à l'origine du chien. C'est des populations de loups qui sont proches du loup gris, mais qui peuvent être un petit peu différentes, peut-être des lignées même éteintes actuellement. Alors, comment ça s'est fait ? Il y a des individus sauvages qui sont donc des loups qui potentiellement, qui normalement, enfin c'est une hypothèse, hein, qui ont cohabité avec l'homme en fait dans des mêmes espaces, dans des mêmes territoires, notamment des mêmes territoires de chasse. Et il y a un mutualisme qui s'est mis en place. Et certains de ces individus, sûrement les plus dociles, ont pu avoir une proximité plus accrue avec l'homme. Et le mutualisme s'est accentué jusqu'à ce qu'il y ait finalement une domination de l'homme sur l'animal. Et donc, en fait, c'est ce processus graduel qui s'est mis en place à partir des populations sauvages. Mais c'est des populations sauvages de loups, faut pas oublier ça. Donc, peut-être des loups un petit peu différents que les loups gris actuels, mais c'est vraiment du loup, quoi. Et le chien n'existait pas avant. Alors, c'est le premier animal domestiqué. Et alors, non pas par des agriculteurs-éleveurs, mais là par des chasseurs-cueilleurs. Donc on est vraiment dans un contexte de domestication complètement différent des autres animaux domestiques. Alors pourquoi ? C'est la grande question. On pense qu'ils avaient des territoires communs de chasse, en fait, et que c'est le partage de ce territoire et des mêmes stratégies de chasse qui a bénéficié aux uns et aux autres. Par exemple, alors il y a une des hypothèses, en fait, qui veut que, par exemple, vous avez... l'homme, il ne peut pas... donc il peut tuer les proies en fait avec des outils, ce que n'a pas le loup. Et le loup, par contre, lui peut tracer des proies sur une distance très très longue. Donc en fait, ils ont pu bénéficier l'un et l'autre de leur stratégie de chasse. L'homme, par exemple, en suivant les loups qui pistaient les proies, et le loup a bénéficié du fait que l'homme puisse tuer plus efficacement les proies. Alors que le loup, il faudra un combat au corps à corps, en fait, sur certains gibiers. Et l'homme, il prend pas tout le reste de la proie, en fait. Il en laisse pour le loup qui peut, après, venir se nourrir de la proie tuée. Voilà, par exemple, c'est un mutualisme, quoi. C'est vraiment hypothétique, hein, parce qu'on n'était pas là il y a 40 000 ans, mais potentiellement, ouais, le loup, ouais, enfin, et donc les premiers chiens utilisés comme compagnon de chasse ou comme gardien des campements, par exemple, et aussi comme animal de compagnie, pourquoi pas. Hein, ça peut être, surtout quand on considère les animaux les plus dociles, pourquoi pas penser que le statut d'animal de compagnie était là depuis... dès le début, en fait. Et effectivement, le statut et les fonctions du chien ont évolué. On imagine mal qu'il y ait eu des chihuahuas à l'époque, hein. Donc le statut de chien jouet, en fait, ce qu'on appelle les toy dogs maintenant, effectivement est apparu très récemment, donc des fonctions très très différentes maintenant.
Un jour, nombreux avaient été ceux qui avaient essayé d'apercevoir au crépuscule le point brillant qui faisait le tour de la planète. Pour la première fois, une petite chienne voguait à 1500 km de la Terre. Pour avoir l'honneur de servir la science, Frisette avait été préparée comme cette autre petite chienne esquimau dont nous allons voir l'entraînement. La chienne est hermétiquement enfermée dans une cabine laboratoire pour son voyage dans l'espace. La cabine fixée à l'avant d'une fusée, l'invraisemblable aventure commence. Des caméras enregistrent le comportement de la passagère pendant le trajet. Tout va bien. Au terme de l'ascension, le largage est télécommandé et le voyage retour est suivi à la lunette et à la radio jusqu'à l'atterrissage du parachute. À l'arrivée, la petite chienne de l'espace semblait ravie de son expédition, mais ce n'était qu'une répétition et ce n'était pas Frisette.
Ce qu'on a montré, en fait, il y a eu plusieurs foyers de domestication en Eurasie. Donc la domestication du chien, elle n'est pas le fait d'un seul groupe d'hommes, elle est le fait d'au moins deux... Il y a au moins eu deux événements de domestication, un à l'est de l'Eurasie et un à l'ouest. Donc, et de manière concomitante, c'est ce qui est assez rigolo. Ensuite, on a montré... que lors de la migration du néolithique, donc quand les hommes, les premiers agriculteurs-éleveurs quittent la zone plutôt moyenne du Moyen-Orient en fait et du Proche-Orient pour venir vers l'ouest de l'Eurasie, on a montré qu'ils emmenaient aussi leurs chiens et que ces chiens-là, accompagnant les premiers agriculteurs, allaient remplacer les populations des chasseurs-cueilleurs qui étaient toujours existantes à l'ouest de l'Eurasie. Donc il y a un fort attachement de l'homme et de l'animal, puisque même le chien, qui n'a pas un statut d'espèce domestique et d'élevage, en fait, comme pourraient l'être les vaches, les moutons, les cochons, suivent aussi les hommes. Donc un premier lien fort qui montre que l'animal est le meilleur ami de l'homme depuis très très longtemps. Ce qu'on a aussi montré, c'est qu'effectivement, il y avait une influence du culturel sur le biologique, notamment quand on s'est intéressé à un gène qui s'appelle amide-B, qui est un gène qui produit une enzyme qui s'appelle l'amylase. Donc l'amylase, nous, on en a dans la salive, d'accord, ça aide à digérer l'amidon, et le chien, lui, il a l'amylase dans le pancréas, mais ça a la même fonction. Et ce gène, il est dupliqué, donc on en a plein de copies, d'accord, c'est aussi le cas chez l'homme. C'est-à-dire que les populations qui sont, vivent dans un milieu beaucoup plus agricole, comme nous, on va avoir plus de copies que des aborigènes, d'accord ? Qui ont une alimentation moins riche en amidon. Chez le chien, c'est pareil. On sait que les huskies ont beaucoup moins de copies que les lévriers afghans, par exemple, qui proviennent de régions où est née l'agriculture. Donc, plus on a de copies d'amylase, plus on produit d'amidon. Alors, l'hypothèse, c'était... Enfin, il y avait deux hypothèses. Est-ce que c'est apparu avec les nourritures industrielles ou est-ce que c'est beaucoup plus ancien et c'est apparu avec l'apparition de l'agriculture ? Et en s'intéressant à l'ADN ancien, on a effectivement montré que l'augmentation du nombre de copies de ce gène était complètement corrélée avec l'apparition de l'agriculture au néolithique. Et du coup, voilà. Donc, on a un lien là entre une évolution culturelle humaine et une évolution biologique chez le chien.
Les parkers sur la berge du fleuve, dans un bouquet de sapins. Les chiens se querellaient et grondaient, mais sans chercher à s'éloigner ni à fuir dans l'obscurité. « Il semble bien fidèle, Henri, » remarqua Bill. L'autre approuva d'un signe de tête, occupé à faire fondre de la neige pour le café. Ce n'est que lorsqu'ils se furent assis sur le cercueil et qu'ils eurent commencé à manger qu'Henri reprit. « Bien sûr, ils savent qu'auprès de nous, ils n'ont rien à craindre. Ils préfèrent manger qu'être mangés. Ils sont pas idiots, les chiens. »
C'est une période culturelle dans l'histoire de l'humanité qui est marquée par la naissance et la diffusion de l'économie de production. Donc ça veut dire la naissance et la diffusion de l'agriculture et de l'élevage. Donc le néolithique, il est plus ancien au Moyen-Orient qu'il ne l'est en Europe, d'accord ? Parce que c'est une vague culturelle qui a diffusé d'est en ouest. Au néolithique, il y a eu un grand boom de domestication animale. Donc on va retrouver les chèvres, la vache, le cochon, principalement chèvres et moutons. Vache, cochon. Et donc ça, c'est les espèces principalement domestiquées au Moyen-Orient, dans le bassin, dans le croissant fertile, en fait, au néolithique. Plus tardivement, on va retrouver le cheval, le lapin, etc. Mais ça, c'est beaucoup plus récent, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Après, donc ça, là, on parle de l'Eurasie. Si on s'intéresse à l'Amérique du Sud, mais plus récemment aussi, hein, puisque le néolithique, c'est vraiment... Donc il y a 7000 ans, c'est vraiment le gros boom... dans le bassin fertile, dans le croissant fertile au Moyen-Orient. Donc plus récemment également, en Amérique du Sud, on va retrouver par exemple d'autres espèces domestiques, comme le cobaye par exemple, etc. Donc en fait, chaque région du monde va avoir ses espèces domestiques, puisqu'on ne domestique pas un lama en Europe, quoi. Hein. On va domestiquer des animaux qui sont présents. Mais alors, le premier, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le premier animal domestique, ça a été le chien, par les chasseurs-cueilleurs, au paléolithique, et qu'ensuite le gros des domestications a eu lieu dans le croissant fertile pendant le néolithique, donc il y a environ 7-8 000 ans.
On supprime les chiens demain. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ça remplirait les hôpitaux psychiatriques.
Sommes-nous normaux grâce à eux? Ils comblent en tout cas un creux affectif, ça permet de vivre et de communiquer.
Alors, il y a une très grande identification entre le propriétaire et son chien, sur le plan pathologique comme sur le plan psychologique. Par exemple, j'ai été frappé lorsque on présente un chien en consultation homéopathique et qu'on lui donne un certain nombre de remèdes homéopathiques, de voir le propriétaire qui vous dit « Mais moi aussi, j'ai les mêmes ».
Beaucoup supportent leur travail parce qu'ils savent qu'au retour, il y a le toutou qui a besoin de tout. Certains pensent qu'il comprend tout, même la philosophie.
Voilà.
Je ne suis pas d'accord avec ta conception de l'animisme panthéistique.
Un chien, ça comprend, même quand vous êtes brimé par votre chef.
Ici, mon chef de service, ici.
On lui essaye le manteau.
En bleu, j'aime pas tellement. Si.
Non. Alors il faut que j'aille jusqu'à là.
Le rouge, ça lui va bien. Je trouve que l'une fois j'ai essayé un rouge, un nœud rouge, je trouvais que ça lui allait très bien.
Ça peut le contrarier aussi, une couleur qui ne lui va pas.
Je ne sais pas.
Le traumatiser même.
Oui. Je crois pas quand même.
Parce que vous prenez ça à la rigolade, hein, mais c'est la vérité pourtant.
Ah non, pas bien.
Vous savez pas ce que c'est qu'un chien, vous.
Oh là, j'en ai appris.
Oh
vous
non,
là,
vous,
tout
n'avez, vous n'avez rien
vous
appris.
Vous savez d'où je viens, moi, des entretiens de bichat. Comment s'appelle-t-il ?
Lister.
Alors, on sait qu'il y a deux foyers de domestication du chien, 1 à l'ouest, donc ça veut dire c'est France, Roumanie, enfin de la France à la Roumanie, hein, c'est une grande zone géographique, et 1 à l'est, donc plutôt est de l'Asie en fait. Donc où exactement, on ne sait pas. En fait, on a des points géographiques, hein, avec nos données fossiles, puisque les chiens ne sont pas ramassés n'importe où, ils sont ramassés dans des contextes archéologiques. Donc on peut dire, dans cet individu-là était domestique, enfin... Il y a une preuve de la domestication dans ce site archéologique-là. Maintenant, on a des sites qui ont la même temporalité et qui sont, par exemple, en Roumanie, en France, on va avoir des sites du même âge où on a des individus domestiques. Donc de là à savoir lequel a été domestiqué le premier, ça va être un peu plus compliqué. Alors, d'autres collègues, notamment en Belgique ou en Angleterre, s'intéressent aux plus anciens animaux domestiqués. Donc, moi, je ne m'intéresse pas à cette question. Et puis, c'est une question où il y a beaucoup de débats, puisque la domestication, c'est un processus graduel. Donc, au premier instant de la domestication, c'est quand même difficile de distinguer les chiens et les loups, et on peut être amené à se tromper. Et notamment, il y a eu des grosses publications sur le fait qu'on trouvait des chiens datés de 37-40 000 ans. Et en fait, on a montré a posteriori que non, le référentiel n'était pas bon et que c'était probablement plutôt des loups. Alors, une lignée avortée, en fait. Peut-être une lignée domestique, mais qui n'était pas aboutie. Donc voilà, moi, je ne m'intéresse pas au plus ancien chien, c'est plutôt au contexte culturel et puis biologique. Mais il y a des gens qui essayent de résoudre cette énigme. Ce qu'on peut dire de manière certaine, c'est qu'il y a eu au moins deux événements de domestication. Avant 2016, avant notre publication, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats, puisque les gens se basaient en fait sur des données plutôt modernes, en fait, des chiens actuels. Donc, et les données archéologiques, elles, montrent depuis 20-30 ans hein, qu'il y a plusieurs foyers de domestication. Donc là, les données génétiques qu'on a obtenues en parallèle vont dans le sens des données archéologiques. Donc, plusieurs foyers de domestication, au moins deux, en Eurasie, il y a au moins 20 000 ans. Pourquoi 20 000 ans ? Parce que les preuves archéologiques qu'on a, donc on peut attester de manière certaine que ces fossiles-là sont des chiens, ben, ces fossiles-là, ils ont environ 20 000 ans.
Go home ! Go home ! Damn him. Hey! God! Go home! Go! Go home, Two Socks. Bad wolf! Bad wolf!
Après, effectivement, le chien a pu être enterré avec l'homme, en fait. On a des sépultures où on retrouve les chiens enterrés avec des enfants, avec des jeunes adultes. Donc, probablement une connivence entre les deux. Le chien a été aussi mangé. Donc, en fait, j'ai pas de réponse tranchée sur ça. De là à dire que ça a été une divinité comme a pu être le chat, non. Enfin, pas à ma connaissance. Mais il y a eu un très fort... des relations très fortes, ça, oui. Alors peut-être qu'il y a eu des rites autour du chien. Je crois qu'il y a eu certains travaux archéologiques qui ont montré que le chien pouvait rentrer aussi dans des rites, en fait. Donc avoir un statut un petit peu au-delà de l'animal de compagnie. Alors donc les rites, l'animal de compagnie, donc une connivence très proche avec l'homme. Et puis ben, il a été aussi mangé, quoi. Donc ça va dépendre de chaque population, en fait. Les races actuelles, ce qu'on appelle race, en fait, c'est le fruit de 300 ans seulement de sélection artificielle. Donc c'est super court dans le temps. Et en fait, le signal du coup passé est complètement brouillé quand on s'intéresse aux races actuelles. Alors, il y a eu sûrement des grands morphotypes à l'époque, puisque le chien est sûrement issu de plusieurs sous-population de loups, donc il y avait probablement des individus plus ou moins grands, plus ou moins petits. D'ailleurs, on voit dès le paléolithique, donc dès les premières domestications, qu'il y a des chiens petits et des chiens très grands. Donc voilà, ça c'est quelque chose à creuser justement sur les aspects phénotypiques, comportementaux des premiers chiens. Donc ça c'est quelque chose qu'on va rechercher, mais voilà, on n'a pas encore de réponse aux questions.
Un jour j'ai trouvé un cabot, moitié fox et moitié caniche. Bien qu'il soit sûrement un des riches, il a reniflé mes godillons. J'étais long de la Seine à Saint-Denis, le soleil tapait dans les feuillages, c'était un vrai temps en mariage. Il m'a suivi. J'ai d'abord foutu des cailloux, la tartine est trop difficile à trouver. Et moi je suis pas fou, j'allais pas me mettre à lui donner le peu qu'il y avait dans ma musette. Mais il était têtu, cette bête. J'ai partagé. Et on est partis tous les deux. J'ai apprécié sa compagnie, j'étais tout le temps seul dans la vie. Je me suis senti moins cafardeux. Le soir, il est s'entortillé près de moi. Et j'étais dans ma toile, content d'avoir sous les étoiles une amitié. Un chien, ça s'en fout de la laideur, des manières, des élégances. Tout bête que c'est, un chien. Ça pense qu'on a du rêve et puis un cœur. Il y a bien des filles pour rigoler qui ont eu pour moi des complaisances. Mais il n'y a que mon chien dans l'existence qui m'a aimé. Un jour qu'il pleuvait en hiver, on finissait de casser la croûte. Il était en plein dessus la route qu'une auto me l'a foutu en l'air. Il m'a regardé, l'air étonné. Puis sa petite âme s'est endormie. Et pour la première fois de ma vie, je chiale.
On voudrait comprendre, par exemple, pourquoi est-ce que les chiens qui ont été amenés du Moyen-Orient et qui ont remplacé les populations à l'ouest, en fait, à l'ouest de l'Eurasie, ont remplacé les populations des chasseurs-cueilleurs, des chiens des chasseurs-cueilleurs à l'ouest, pourquoi est-ce que ceux-là, ils ont été préférés à ce qu'ils étaient plus dociles, est-ce qu'ils avaient un phénotype plus attrayant, enfin voilà, et donc ça laisse toutes ces questions-là sur l'origine des races et sur la sélection des premiers chiens est intéressante, et donc notre but là dans les quelques mois, c'est justement d'obtenir plein de marqueurs génétiques, donc qui sont par exemple des mutations ponctuelles sur certains gènes qu'on sait en lien avec la couleur, avec la forme du museau, etc. Donc on va essayer de les génotyper pour obtenir des données et essayer d'avoir une interprétation sur ce qu'ont pu être les premières sélections, en tout cas sur ces critères-là. Les premiers agriculteurs emmenaient leurs chiens et puis qui remplaçaient les populations d'Europe, d'accord ? Et puis en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est que tous les chiens appartiennent, 90% des chiens actuels appartiennent à une autre lignée en fait. Et cette lignée, on pense qu'en fait, elle arrive notamment en Europe par une autre migration qui elle est plus tardive, qui est plutôt à l'âge de bronze, et qui pourrait être liée du coup à la migration des Yamnaya, voilà, une population humaine, qui elle emmène en plus des chiens déjà domestiqués, la métallurgie, le millet, le cheval. Et actuellement, effectivement, 90% des chiens actuels appartiennent au même groupe génétique en fait, que les chiens qu'on voit provenir de l'Est, donc des steppes pontiques, et arriver en Europe. Donc voilà, ça c'est un nouveau point à élucider, où on n'a pas encore beaucoup de données qui proviennent de l'Est, donc c'est vraiment hypothétique, mais ouais, c'est un point à creuser.
Ils ont peut-être eu peur que je pisse sur le marbre du bénitier, ou pire que je m'accroupisse devant l'autel immaculé, peur que je ne lève la patte quelque part dans les allées où siège cette foule ingrate qui nous parle d'humanité. Ils ont considéré peut-être que c'est un amour pas très catholique que celui d'un chien pour son maître. Alors ils m'ont privé de cantiques. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Devant la chapelle, sous cette pluie qui m'indiffère, tenu en laisse par un fidèle, allergique au lieu de prière. Les gens parlent à côté de moi, tu as de la chance toi au moins. La souffrance ne t'atteint pas, l'émotion c'est pour les humains. Et dire que ça se veut chrétien, ça ne comprend même pas que l'amour dans le cœur d'un chien, c'est le plus grand amour qui soit. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Je pourrais vivre dans la rue, être bourré de coups de pied, manger beaucoup moins que mon dû, dormir sur le pavé mouillé. En échange d'une caresse, de temps en temps d'un bout de pain, je donne toute ma tendresse pour l'éternité ou plus loin. Prévenez-moi lorsque quelqu'un aimera un homme comme moi, comme j'ai aimé cet humain que je pleure tout autant que toi. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens.